Nous sommes presque au bout du chemin et sans doute au début d'un autre. C'est ce que déclarait Laurent Fabius, désormais ancien ministre des Affaires étrangères, le 12 décembre dernier, après l'adoption d'un accord dit historique dans le cadre de la COP21 qu'il présidait, la grande conférence sur le climat qui a fixé ses objectifs pour préserver la planète après des jours et des nuits de négociations. Oui, mais voilà dans quel cadre instaurer toutes ces mesures. Nos politiques publiques ainsi que les différentes branches du droit, elles sont-elles vraiment adaptées pour répondre à de tels enjeux? La difficulté vient en effet de la transversalité d'un sujet qui touche notre quotidien, tout en étant encore abstrait dans la tête de beaucoup d'entre nous. Et puis son échelle, le développement durable se doit d'être pensé à une dimension internationale. Alors comment faire respecter un droit de l'environnement qui serait mondial tout en prenant en compte les problématiques locales? Et d'ailleurs, c'est quoi concrètement le droit de l'environnement? Réponse tout de suite d'un chercheur en ville.
Chercheur en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et la Radio Université Bretagne Noire.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal B. Notre invitée du mois est Nathalie Hervé-Fournereau, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse ou chercheur, vous préférez qu'on féminise, en droit donc, et directrice de recherche au CNRS, à l'Institut de l'Ouest Droit et Europe, à l'Université Rennes 1. Vous serez interviewée aujourd'hui par Christian Lebar, bonjour à vous.
Bonjour.
Directeur de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, Xavier Debontride, bonjour Xavier.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Rédacteur en chef de Place Publique, dont le dernier numéro consacré au quartier Euro-Rennes est toujours en kiosque. À vous Xavier.
Merci Renan. Effectivement, on va s'intéresser avec vous, Nathalie Hervé-Fournereau, à cette dimension juridique d'un sujet qui n'apparaît pas toujours sous cette forme-là quand on s'y penche. Je pense à l'environnement, développement durable. On a eu la COP21, Renan le rappelait à l'instant. Et évidemment, il y a une dimension réglementaire derrière les bonnes intentions pour préserver la planète. C'est le sujet qui vous intéresse déjà depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez répondre à la question que posait Renan à l'instant? C'est quoi le droit de l'environnement?
Oh, c'est une jeune branche du droit qui a une quarantaine d'années maintenant et dont l'objectif est d'assurer la protection des milieux, mais aussi d'assurer tout simplement la qualité de notre existence sur cette planète. Et donc de travailler sur ces interactions entre l'homme et le milieu et essayer en d'autres termes d'avoir le moins de pollution possible, d'avoir dans un monde idéal le moins de dégradation de notre environnement et de notre qualité de vie tout simplement. Tout simplement.
Alors quand on entend votre définition, elle est par essence même très extensive et on imagine que vous sollicitez plusieurs compartiments du droit, de la science juridique pour justement alimenter votre réflexion et les actions que vous menez dans ce domaine. Vous allez voir du côté du droit des sols, du droit de l'urbanisme, du droit de la propriété, du droit des affaires peut-être aussi?
Oui justement, quand je dis que le droit de l'environnement c'est une des branches du droit, en d'autres termes c'est une branche qui dépend de ce tronc juridique qui va mobiliser toute une série de branches du droit, parce que qui dit protéger l'environnement, ça va nous amener à travailler non seulement sur des thématiques qui vont être des thématiques qui touchent au droit de l'urbanisme, comme vous venez de citer, à l'échelle la plus locale possible, mais également au droit international. On travaille sur les entreprises, donc il faut aussi mobiliser le droit de la concurrence, le droit des affaires, le droit des marchés publics. Donc on a vraiment toute une mobilisation, c'est tout l'intérêt de l'environnement, mais aussi toute sa complexité, qu'on travaille comme ça en tant que juriste sur ces domaines-là. Il faut être amené à jongler avec toute une série de branches du droit. Et ce n'est pas forcément si évident que cela.
Mais c'est ça qui rend sans doute l'exercice passionnant. J'imagine que les dernières semaines et les derniers mois ont été particulièrement riches pour votre activité, pour cette branche du droit dont vous vous occupez, avec la préparation et la réalisation de la tenue de la COP21 en décembre à Paris. Vous avez été directement impliqué dans cette réflexion?
Alors on a été impliqués avec mon équipe et l'ensemble des communautés, la communauté des juristes en France, à différentes échelles, à différents niveaux. C'est-à-dire que si je prends au niveau de notre laboratoire, on a été amené à organiser toute une série de conférences avant la COP, après la COP, avec des collègues juristes qui ont été pour certains au Bourget pendant la COP21.
Vous y êtes allé vous-même?
Moi j'ai pas pu y aller malheureusement, mais j'ai bénéficié entre guillemets de mes deux collègues.
Vous aviez des relais sur place certainement?
Voilà, on avait nos relais sur place. avec deux collègues, dont un de nos collègues était dans la délégation du Costa Rica. Donc, il a vécu au quotidien comment on construisait le droit. Et je pense que ça, c'est une expérience, à mon avis, extraordinaire, parce que il était, entre guillemets, dans des enceintes fermées. Et donc, de voir...
Au cœur du réacteur de la COP21.
Complètement au cœur du réacteur. Et une autre de mes collègues, Marion Lemoine, en tout cas, qui, elle, a assisté de l'autre côté de la barrière, aussi au Bourget, tandis qu'Edgar Fernandez était vraiment au cœur du réacteur. Donc, on a fait ça. Hein. Donc, deux de mes collègues étaient là-bas. On avait organisé trois conférences avant la COP avec une collègue du Canada qui était venue pour nous donner un petit peu une vision de la justice climatique côté des Inuits. Donc une approche.
Ils sont bien placés pour en parler.
Une approche. Et puis surtout, vu la position du Canada par rapport à ce qui s'était passé avec le protocole de Kyoto, c'était intéressant justement de voir le positionnement des Inuits par rapport à ce qui était en train de se dérouler avec la justice climatique. Et puis on a aussi organisé, après la COP21, des manifestations. Une en particulier avec le Centre d'excellence Jean Monnet. Parce qu'on a un cycle de conférences sur les ressources naturelles et on a eu la chance d'avoir Jean Jouzel en janvier.
C'est un petit peu notre local de l'étape puisqu'il est natif de la Garge de Bretagne, je crois.
De Jean-Zé,
vous avez raison.
Donc au moins on a pu avoir à chaud son retour et on a également eu le Café des Sciences avec l'Espace des Sciences la semaine dernière justement, où il y a 15 jours, 4 février, ouais c'est déjà passé, pour débattre hein, de le rôle des juristes par rapport à la COP21. Donc c'est sûr que la COP21 a mis le zoom, entre guillemets, sur la dimension juridique qui est un peu invisible. C'est tout le paradoxe de ce droit de l'environnement.
Il est à la fois indispensable et peu perceptible, en tout cas du grand public,
oui,
bien entendu.
Oui, peu perceptible, parce que quand on pense COP21, bien évidemment, on va parler le prix du carbone. Donc les économistes, les climatologues, nécessairement. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que pour réguler les rapports de l'homme et de la société et de l'environnement, eh bien, il y a aussi le droit qui joue son rôle.
Alors Christian Lebart, qui ne s'est pas encore exprimé, a des questions à vous poser. On commence avec la première, Christian.
Oui, justement, peut-être pour revenir sur l'expression droit de l'environnement. Immédiatement, on pense à la dimension la plus classiquement répressive du droit. C'est-à-dire le droit de l'environnement, c'est d'abord...
C'est le droit à interdire ?
C'est d'abord un droit qui interdit un certain nombre de pratiques sociales qui évidemment serait mauvaise pour l'environnement. Alors, est-ce que j'ai aussi en tête, peut-être en tant que chercheur en sciences politiques, des paroles publiques sur Ségolène Royal, par exemple, disant il ne faut pas s'enfermer dans une vision répressive de l'écologie, sinon les gens n'adhéreront pas. Alors, est-ce que les juristes ont un avis là-dessus ? Est-ce que le droit de l'environnement, c'est un droit qui clairement, vu le caractère dramatique des enjeux, est-ce que c'est un droit qui interdit, qui réprime, ou est-ce que c'est un droit qui propose, qui suggère, qui facilite, etc. Quel est le...
En fait, tout va dépendre un peu, si on part de l'histoire du droit de l'environnement, lorsqu'il s'est construit, il fallait répondre à des enjeux immédiats. Et donc, il est évident que dans ces cas-là, c'est les autorités publiques qui se sont occupées à construire ce droit. Et il s'est manifesté principalement par des mesures de police administrative, comme on qualifie ça. Donc, un droit public, un droit qui était là pour imposer des interdictions, des restrictions. Donc, il s'est vraiment construit, c'est vrai, sur une dimension très répressive, au sens d'interdiction et de sanctions. Et puis on se rend compte, tout simplement, au fur et à mesure où de nouvelles atteintes apparaissent, que l'environnement, c'est pas que la chose publique, c'est aussi l'affaire de tout le monde, de chacun. Et que le droit, c'est pas seulement un droit qui va interdire, c'est aussi le droit, comme tu l'expliques, avec une vertu très pédagogique aussi, qui est là aussi pour récompenser ou inciter à avoir des comportements plus vertueux. Et donc tu as toute la palette des instruments juridiques qu'on peut t'amener à mobiliser aussi pour protéger l'environnement. Et c'est vrai que ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on est en train de mobiliser d'autres approches, ce qu'on appelle les approches volontaires, par exemple, qui ont aussi toute leur diversité, mais qui sont des instruments qui sont là pour essayer d'inciter d'accompagner, pas seulement se substituer, hein, mais de compléter l'approche coercitive.
Il ne faut pas d'écologie punitive, il faut des règles, des contraintes, ça c'est vrai, parce que quand on fixe des contraintes, par exemple, quand on interdit les pollutions ou qu'on le pose des règles pollueur-payeur, à ce moment-là, on suscite des changements de comportement. Et deuxièmement, il faut des bonus. C'est ce que l'on fait en France, par exemple, avec la voiture électrique, puisqu'aujourd'hui, il y a un bonus de 10 000 euros pour ceux qui remplacent leur diesel qui a plus de 10 ans en une voiture électrique. Et puis, il y a un transfert de fiscalité, c'est-à-dire si on taxe plus la pollution et si on taxe moins le travail, à ce moment-là, on réoriente aussi les activités des entreprises et les investissements. Et enfin, il faut des normes
Est-ce que vous indiquez à l'instant que ce droit, il est co-construit de plus en plus avec, comme on dit, les parties prenantes, les habitants, les groupes également d'observation ou de pression? Et ma question est là, quelle est justement dans ce droit de l'environnement la part jouée par les lobbies, par les groupes de pression qui peuvent évidemment défendre des intérêts divergents selon l'endroit d'où ils parlent?
Oui, l'importance de toutes ces forces qui traversent la construction du droit de l'environnement et sa mise en œuvre, c'est quelque chose d'évident. Par contre, c'est parfois pas forcément si facile que ça à bien extraire. En d'autres termes, Christian pourrait aller aussi dans mon sens, parce que c'est pas que l'approche du juriste, hein, l'approche aussi des sociologues et de la science politique pour voir un petit peu de ces différents rapports de force et des acteurs. Alors, il est vrai que ce droit de l'environnement, il a été d'une manière très péjorative surtout montré du doigt, oui voilà, c'est pour les écolos, en d'autres termes, et les méchants industriels, donc des approches très très noires et blanches. Et je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus subtil que ça pour moi.
Alors plus subtil, mais peut-être et plus complexe, vous venez de le
plus
dire.
Plus subtil, ouais.
Plus compliqué aussi dans la manière de pouvoir résister à certaines interprétations ou certaines tendances à l'instrumentalisation du droit. Comment vous positionner en tant qu'observatrice de ces questions-là?
Si je prends un exemple...
J'allais vous en demander, justement.
Oui, voilà, prenons quelques exemples. Dans ma recherche doctorale, moi j'ai travaillé sur l'entreprise et l'environnement, et le droit communautaire de l'environnement, puisque c'est une de mes spécialités, le droit européen. Et donc, on voit bien qu'on ne peut pas non plus avoir des approches trop manichéennes. La question de l'entreprise, on voit bien qu'il y a toute une diversité de comportements des entreprises, même si c'est sûr qu'on pense tout de suite aux multinationales qui vont imposer. Et un autre exemple que j'ai en tête, encore beaucoup plus récent que ma thèse, bien évidemment, c'est l'exemple de Volkswagen. Donc on voit bien que ces rapports de force sont extrêmement présents, très puissants. Alors, la transparence du lobbying, on voit au niveau de l'Union européenne, puisque c'est vraiment le domaine que je travaille le plus, on voit bien la Commission européenne, le Parlement européen ont essayé, entre guillemets, de rendre plus transparent, d'institutionnaliser ce lobbying-là, qui n'est pas en soi que négatif. On a une approche très franco-française là-dessus.
On dit souvent d'ailleurs le lobbying à l'anglo-saxonne, qui est moins péjoratif dans sa acception que la version française que l'on peut en avoir.
Parce qu'il est régulé aussi.
Il est régulé et il est beaucoup plus transparent, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'on sait qui parle, on sait qui fait quoi.
Et c'est vrai qu'on regarde, depuis cette construction de droit de l'environnement, pendant très longtemps, on ne voyait pas trop ce qui se passait dans les couloirs, ce qui se passait trop dans les enceintes. Alors, avec cette volonté de rendre ça plus transparent, de lancer les consultations publiques, de récupérer l'observation de l'ensemble des parties prenantes et de les rendre, entre guillemets, accessibles à tout le public, c'est ce qui se passe au niveau européen, ce qui n'est pas le cas au niveau français. Pour les chercheurs, c'est des sources d'informations extrêmement importantes pour savoir qui a pesé et comment les rapports de force ont évolué.
Alors, vous opposez presque un droit européen et un droit français en matière d'environnement, et pourtant, tout ça travaille sur un territoire partagé. Quels sont, justement, s'il fallait les définir ou faire apparaître peut-être certaines différences ou singularités du droit national, du droit français en matière d'environnement, qu'est-ce qui le caractérise principalement et le différencie peut-être, justement, de la démarche européenne?
Sur les différences, si on reste toujours sur l'histoire de cette transparence, ces jeux de ces parties prenantes, c'est vrai que en tant que chercheur, moi je vois la différence tout simplement quand je vais à la source de l'information pour savoir entre guillemets qui fait quoi. Prenons l'exemple tout bête des consultations publiques lorsqu'elles sont lancées sur l'environnement ou lorsque on est en train de co-construire une réglementation. C'est vrai qu'au niveau européen, les consultations publiques qui sont faites par la Commission européenne, tout est accessible sur le net. Donc on peut très bien savoir qu'est-ce qu'a dit telle et telle ONG qu'elle a dit, qu'est-ce qui a été dit par telle ou telle association industrielle. Au niveau français, on a des consultations publiques, on a quand même un accès à l'information important, mais on ne récupère pas tout. Donc c'est un paradoxe à la française, c'est-à-dire qu'on a une autre charte constitutionnelle qui reconnaît le droit à l'information et à la participation.
Mais
on a des enceintes où justement les parties prenantes sont ensemble, où on discute. Mais entre guillemets, tant l'accès à l'information de ce qui vraiment se dit, le temps qui est laissé pour la consultation, le temps pour faire cette co-construction, on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'insuffisances.
Christian Lebart.
Oui, c'est encore une question sur le lien entre le droit, la dimension juridique et puis la dimension politique. Est-ce que c'est parce que ça s'est passé en France? Mais j'ai le sentiment que les médias ont plutôt parlé de la COP21 dans des termes plutôt positifs. J'ai l'impression que l'idée selon laquelle ces trucs-là ne sont que des grands messes qui ne servent à rien, etc. Je pense qu'il y a une sorte d'opinion publique, alors nationale, internationale, je ne sais pas, mais qui a un peu évolué. On a vu un certain nombre de, par exemple, d'intellectuels se rallier non pas aux décisions qui ont été prises, mais en tout cas au processus en disant « c'est peut-être pas si inutile que cela ». Là où, par le passé, on avait tendance à dire, au fond, c'est de la, ce que nous on appelle la politique symbolique, c'est-à-dire voilà, c'est pour donner à voir qu'on fait quelque chose, mais bon, les vraies décisions sont pas de cet ordre, etc. Alors, est-ce que cet optimisme qui m'a semblé accompagner le processus de la COP21, il est fondé ou pas?
Là, la COP21, c'était vraiment quelque chose de très très singulier, qui se distingue hein, des
par
autres.
Par rapport aux conférences antérieures, pourquoi?
Il y avait, à mon avis, plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est qu'il fallait aller au-delà de l'échec de la COP qu'on a vu à Copenhague en 2009. Il y avait cet échec ouais. cuisant. Et donc, il y avait une espèce d'ardente obligation politique à passer cet échec-là et à réussir la COP21. Il y avait déjà cette première
Mais ça, c'est très ambigu parce que ça aurait pu imposer d'aboutir à quelque chose, mais
qui
à quelque chose
pas.
Qui ne soit...
Mais il y avait ça. Il y avait l'autre événement, c'est les événements catastrophiques qu'on a rencontrés.
Oui, moi je pense aussi comme
et
vous.
Et ça a donné une double ardente obligation. Obligation morale, obligation politique. Enfin, tout azimut, si on prend quand même ce qui s'est passé sur le sommet des consciences avant l'été, après les événements tragiques que l'on a rencontrés. C'est pour ça que c'était, il y avait une singularité, un atypisme qu'on n'allait pas retrouver, et d'où une atmosphère très particulière à la COP21. Laurent Fabius a joué un rôle unanimement reconnu par l'ensemble des chefs d'État qui étaient présents, l'ensemble des partis, des experts qui étaient présents. Ils ont vraiment assuré quelque chose qui était autre chose qu'une grande messe. Une mise en responsabilité politique, juridique, scientifique. Et puis, ce jeu de la transparence pour que les partis soient bien inclus, ça aussi, ça a été complètement différent de ce qui s'est passé à Copenhague. Copenhague, c'est quand même un texte qui avait été préparé par un certain groupe de pays qui se présentaient comme la parole, la vérité mondiale. Et là, avec la diplomatie française, c'est tout le paradoxe entre ce qui se passe en droit français et ce qui s'est passé à l'échelle internationale, à la représentation française. Quand on parle de la diplomatie française, c'est pas un vain mot. En tout cas, ça n'a pas été un vain mot pendant la COP21. Et il y a, tous les jours, ils venaient expliquer à l'ensemble des parties où est-ce qu'ils en étaient, comment ça évoluait. Donc il y a vraiment eu une volonté de faire l'appropriation de ce processus par l'ensemble des parties.
À l'approche de la conférence de l'ONU sur le changement climatique, la société civile se mobilise à Bruxelles pour interpeller les responsables européens. Dans un peu plus d'un mois, la communauté internationale se retrouvera à Paris pour tenter de trouver un accord contre le réchauffement de la planète. Nous manifestons aujourd'hui pour demander aux gouvernements européens de prendre des décisions pour lutter contre le changement climatique. Nous voulons leur demander d'être ambitieux à Paris et de prendre cela au sérieux, car nous n'avons qu'un seul avenir.
C'est un peu un paradoxe par rapport à ce que vous nous disiez il y a encore quelques minutes à ce même micro, en distinguant le droit national, plutôt opaque et peu transparent, avec le droit européen. Là, la COP21, à vous entendre, a permis de mettre en lumière une capacité française à fédérer, expliquer et emporter finalement l'adhésion du plus grand nombre.
Je crois que le droit de l'environnement, je m'étais amusée un jour à expliquer les paradoxes du droit de l'environnement, mais c'est vraiment ces paradoxes-là, parce que sur ce qui s'est passé à la COP21, où on voit la France qui se prend cette responsabilité d'assurer cette transparence dans cette diplomatie, et puis l'Union européenne qui là, paradoxalement, était
en mode mineur.
Et oui, à cause de ces tensions nationales.
Comment, justement, le droit européen et français, puisque c'est ce dernier qui vous intéresse aussi, j'imagine, peut-être un peu plus encore, va-t-il incorporer les besoins, les usages ou les injonctions contenues dans la COP21? Comment ça va se traduire en droit, comme on dit?
Déjà, par rapport à la préparation de la COP21, l'Union européenne a toujours été... son souhait s'est exprimé d'être le leader, d'être pionnier, de montrer l'exemple. Et elle l'avait déjà fait avant la COP21, lorsqu'on avait signé le protocole de Kyoto, hein, d'aller au-delà des engagements de Kyoto. Ensuite, avec la COP à Copenhague, après l'échec, ça avait été vraiment d'adopter un nouveau paquet énergie-climat avec des engagements encore plus sévères. Et puis, pour la COP21, c'était aussi cela. C'est-à-dire qu'elle s'était engagée, elle a déposé ses contributions comme ses États membres, étaient parmi les premières à déposer les contributions en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, d'énergie renouvelable, etc. Et donc là, comment ça va se traduire? Eh bien, on a déjà engagé un certain nombre de réformes des textes existants pour lutter contre le changement climatique. Et donc, on est censé, entre guillemets, maintenant se projeter sur les horizons 2020-2050, avec des traductions dans un certain nombre de règlements et de directives qu'on va adopter au niveau européen.
Donc ça va se décliner dans la durée. Christian.
Oui, je voudrais revenir sur ce mot absolument fascinant que vous avez utilisé, qui est le mot engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'en tant que juriste vous pensez d'un droit qui ne repose que sur l'engagement, qui n'est pas sans rappeler les bonnes résolutions que nous prenons et que nous n'appliquons jamais. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'histoire du droit de l'environnement, enfin, au niveau international, c'est un cimetière de promesses non tenues, quand même. Donc, qu'est-ce qui peut rendre optimiste, là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est juridiquement qu'un engagement international, peut-être?
Alors, après, le terme d'engagement, c'est vrai qu'il faut faire attention à de quoi parle-t-on. Lorsqu'on parle de l'accord de Paris, donc ce qui va, entre guillemets, cet acte juridique qui va être ouvert à signature à partir du mois d'avril, c'est un acte juridique contraignant. En d'autres termes, les États sont censés le respecter et s'ils ne respectent pas les obligations contenues dans cet acte juridique, ils sont censés également être sanctionnés. Ça, c'est la théorie du droit international. Après, c'est vrai que à l'intérieur de ces actes juridiques contraignants, comme on a avec cet accord de Paris, on a des obligations dont, entre guillemets, l'intensité normative et l'intensité juridique sont réduites à leur plus petit dénominateur commun. Alors après, pour répondre à votre question sur comment ça va se transformer éventuellement en contrainte, c'est que ce sont ces obligations qui sont prises à l'échelle internationale, l'accord qui va être signé à partir du mois d'avril, qui va faire l'objet d'un processus de ratification dans nos États membres et au niveau de l'Union européenne. Ensuite, ça va se traduire dans l'adoption de réglementations qui, elles, vont être contraignantes. Au niveau européen, ce sont les directives, les règlements qui vont donc être adoptés ou révisés pour respecter les contributions qu'on a proposées au secrétariat de la Convention sur le changement climatique. Et ensuite, au niveau de nos États, c'est pareil. Si on prend l'exemple français, ce qu'on vient d'adopter au mois d'août, la loi sur la transition énergétique, est là, en quelque sorte, pour se préparer à respecter les engagements que l'on a pris pendant la COP21.
Ce qui est aussi intéressant dans ces engagements, c'est qu'ils relèvent parfois plus de l'obligation de résultat que de l'obligation de moyens. Je suis toujours très, très, très fasciné par la catégorie des l'engagement à réduire de X% les productions de gaz à effet de serre. Oui. Donc là, on est aussi dans un droit qui incite à regarder sur les productions ultimes et pas seulement sur les normes au sens classique du terme.
Je pense qu'il faut voir les deux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une tendance maintenant au droit de l'environnement, en particulier pour la question du changement climatique, on s'est fixé des objectifs qu'on a chiffrés, entre guillemets, mais qui ne sont pas tous obligatoires. C'est-à-dire que si je prends la réduction des gaz à effet de serre, où l'Europe s'engage à l'horizon donc 2030, et ensuite c'est autre chose, mais au moins pour 2020 et 2030, à s'engager à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre. Pour l'efficacité énergétique, elle avait voulu aussi, la Commission européenne, prévoir un engagement comme quoi on allait augmenter son efficacité énergétique à hauteur de 27% de la consommation finale. Et puis, résultat des courses, les États ont bloqué. Non, laissez-nous faire. Donc, laissez-nous trouver les moyens pour atteindre une meilleure efficacité énergétique. Donc, c'est difficile de dire, OK, on utilise toujours ce type d'instrument. On a vraiment, chaque fois, on est dans la nuance.
Une petite question avec une réponse qui sera également avant la pause musicale dans cette émission sur la capacité de nos élus à s'accaparer ou à toute la complexité du sujet. Quand il s'agit de transformer en loi tout cet arsenal juridique, est-ce qu'on risque pas, au bout du compte, d'avoir un décalage entre la représentation populaire à l'Assemblée et puis le degré de technicité quand même très important, on l'entend bien à travers votre propos, qu'il est nécessaire de maîtriser pour bien appréhender toutes les facettes de ce sujet.
Oui, il y a cette technicité hein, qui n'est pas qu'une technicité juridique. Parce que c'est évident que lorsqu'on va construire cette réglementation, lorsqu'on construit le droit de l'environnement en général, hein, que ce soit pour le climat, pour la biodiversité ou d'autres domaines, la technicité, elle va être une technicité en mobilisant d'autres disciplines. Parce que c'est pareil, les données d'ordre économique, les données d'ordre écologique, en écologie. Bref, c'est vrai que pour l'élu, en particulier les petites communes, ça peut être extrêmement redoutable. Parce que y a un problème de temps, problème de compétences, problème tout simplement aussi de moyens pour mettre en œuvre tout cela.
On va reparler de cette dimension justement, de l'articulation des échelles entre l'approche internationale et puis l'approche locale que vous évoquiez à l'instant. Mais avant, on écoute Madame la Terre, c'était Cléo, chantée en 66. 19.
Héron, héron, petit patapon, héron, héron, petit patapon, héron, héron, petit patapon.
Oh oui, madame la terre, vous êtes si terre à terre. Oh oui, madame la terre, il vous faut une atmosphère pour vous employer en l'air. Oh oui, madame la terre, vous êtes un peu trop léger.
Héron, petit patapon, héron, héron, petit patapon, héron, héron, petit patapon.
Oh oui, madame la terre, nous on n'en a rien à faire de vos potins de commerce. Oh oui, madame la terre, mêlez-vous de vos affaires, même si elles sont étrangères.
Héron, héron, petit patapon, héron, héron, petit patapon, héron, héron, petit patapon, héron, héron, petit patapon, héron.
De retour dans Chercheurs en ville, à l'instant c'était Cléo avec Madame la Terre. Vous l'aurez peut-être compris, nous parlons d'environnement et plus précisément du droit de l'environnement avec notre invitée, la juriste et chercheuse rennaise Nathalie Hervé-Fournereau. Dans la première partie de notre émission, on a entendu que c'était une question pleine de paradoxes. Le droit de l'environnement est à la fois indispensable mais aussi peu perceptible du grand public. C'est une question qui dérange aussi de par son approche très manichéenne quand on oppose par exemple les grands entreprises qui polluent aux gentils militants écologistes. Et puis les contours de ce droit sont difficiles à comprendre et il est difficile aussi à mettre en œuvre, notamment à l'échelle européenne, tiraillée par des tensions nationales. Dans cette deuxième partie de Chercheurs en ville, on s'intéressera au rôle des chercheurs dans le droit de l'environnement, par exemple ici à Rennes, et notre invité est bien placé pour en témoigner. Et puis on s'interrogera sur le rôle des entreprises dans la recherche et notamment dans le financement de ces recherches. Notre invitée, je vous le rappelle, est Nathalie Hervé-Fournereau. Elle répond aux questions de Christian Lebar et Xavier Dobontry. À vous, Xavier.
Héron, héron, petit patapon. Alors, on va revenir quand même avec vous, Nathalie Hervé-Fournereau, sur cette dimension passionnante du droit de l'environnement. Vous évoquiez juste avant la pause musicale la difficulté que peuvent rencontrer des élus de petites communes pour maîtriser, en tout cas se familiariser avec la complexité de toutes ces différentes parties du droit qui sont mobilisées dès lors que l'on s'intéresse s'intéresse à l'environnement. On voit bien qu'il y a un petit problème quand même presque démocratique dans cette affaire-là. Comment vous pouvez justement, peut-être à travers les travaux de recherche que vous menez, aider au décryptage, pas à la simplification bien sûr, mais à la meilleure compréhension?
Ah, il y a plusieurs possibilités. Si on prend ce qui se passe dans la région Bretagne, et ce qui se passe aussi dans nos départements, ces instances-là ont mis en place des conseils scientifiques de l'environnement. Donc en d'autres termes, ce sont des structures qui réunissent toute une palette de chercheurs qui travaillent sur l'environnement et qui peuvent justement être là pour donner des avis, être consultés par les autorités publiques pour les aider à mettre en place un certain nombre de politiques ou d'anticiper la mise en place d'un certain nombre de politiques.
Christian.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre cette logique-là, qui est au fond une logique d'expert, hein, d'expertise technocratique, au sens plus traditionnel du terme, et puis une autre logique qui est aujourd'hui très prégnante dans la vie politique locale, qui est une logique de démocratie participative? C'est-à-dire, est-ce que l'urgence sur les questions d'environnement n'incite pas à passer un petit peu au-delà des opinions publiques, ne serait-ce que parce que de droits des générations futures, etc.? Est-ce qu'il n'y a pas cette tendance-là et ce risque-là, et peut-être cette nécessité-là, je ne sais pas comment le dire, à bousculer les opinions publiques pour des questions qui tiennent à l'urgence environnementale?
Oui, je dirais qu'elles ne vont pas que bousculer l'opinion publique. Je pense qu'elles bousculent aussi tout acteur, en particulier les chercheurs. C'est-à-dire que cette urgence qu'on nous annonce, ou en tout cas les prises de décision comme ça dans l'urgence, mettent en difficulté l'opinion publique. Parce que du coup, on se retrouve dans une instabilité complète et on nous impose ces décisions. Et même l'expertise scientifique que j'évoquais tout à l'heure. Sans citer des cas bien particuliers, parce qu'on est, entre guillemets, censé ne pas en parler, on est dans la réserve, mais moi j'ai été confrontée, dans le cadre d'expertise, à être sollicitée dans l'urgence, justement, c'est-à-dire donner une réponse dans le mois qui suivait sur quel impact environnementaux peut avoir telle et telle décision.
C'était la caution scientifique que l'on recherchait en s'adressant à vous.
Oui.
Moi, j'ai vécu ça à la région Bretagne sur les algues vertes, par exemple. Là, ça a été un moment de panique chez les élus. Il fallait, dans l'urgence, financer des thèses, alors pas en sciences sociales principalement, évidemment.
Pour montrer que tout ça n'était pas grave, finalement.
Non, au contraire, pour... oui, il y avait urgence, quoi. Hein, et quand on faisait appel aux chercheurs, vraiment sur le mode de la panique.
Oui. Je
vous confirmez.
Je ne peux que confirmer. Et c'est à double tranchant, parce que du coup, ça met les chercheurs en situation extrêmement désagréable.
Le temps de l'urgence, ce n'est pas le temps de la recherche.
C'est
quand
pas
même,
le
hein.
temps de la recherche. On peut c'est pour ça que, comme vous évoquiez tout à l'heure, la position qu'on a entre l'expertise, le chercheur, la position du chercheur dans des enceintes d'expertise est extrêmement délicate, parce que on a un rôle en tant que chercheur dans la cité. On ne peut pas se permettre de rester dans une tour d'ivoire. Moi, j'ai le souvenir de mon directeur de labo, directeur qui est malheureusement disparu, Jean Rau. Mais Jean Rau était là pour nous démontrer, mais le chercheur doit avoir un rôle dans la cité. Il doit s'impliquer dans la cité. Donc, il y a cette dimension citoyenne du chercheur qui est importante. Mais quand on se retrouve comme ça dans l'expertise, où on nous demande de donner des éléments dans l'urgence, sur lesquels va se fonder une décision publique, c'est extrêmement...
Mais je vais poser une question qui est peut-être pas si évidente pour ceux qui nous écoutent, mais l'expertise en droit... Comment intervient-elle? C'est quoi d'être un juriste expert par rapport à d'autres experts, climatologues, etc.
Oui, comment ça se traduit?
Oui, comment ça se traduit?
Je dirais qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui va être l'état de l'art, comme dans n'importe quel domaine scientifique.
Expliquez-nous le droit.
En d'autres termes, c'est quoi le droit existant? Ouais. Quelle est la réglementation que l'on doit prendre en considération pour prendre notre décision? Donc c'est vraiment un état de l'art au sens de quelle est la réglementation qu'on doit respecter. Et puis, on a aussi une autre dimension dans l'expertise, qui est quelle pourrait être l'évolution du droit. Comment on peut imaginer
C'est ça qui vous plaît. On voit, alors nos auditeurs ne le voient pas, mais moi je vois vos yeux qui brillent là tout d'un coup à l'évocation de cette possibilité de faire bouger les lignes.
Oui, parce que en d'autres termes, j'ai toujours détesté en droit d'être exclusivement le plombier de service.
Ça, c'est dit.
Voilà. En d'autres termes, quand on est comme ça dans des enceintes d'experts, c'est assez difficile au départ d'expliquer que le juriste, c'est pas l'avocat de service. On n'appuie pas sur un bouton pour avoir la dernière jurisprudence sortie ou dernier texte sorti. On réfléchit sur comment se construit la norme, on réfléchit comment elle se met en œuvre, quelles sont les forces qui rentrent en jeu et comment on pourrait la faire évoluer, comment on peut la transformer. Donc là, l'expertise en droit, c'est aussi cette dimension-là. Comment est-ce qu'on pourrait, en effet, faire bouger les lignes, en d'autres termes, au niveau de la régulation juridique ?
Personnellement, vous avez réussi à les faire bouger, ces fameuses lignes. Est-ce qu'il y a des petites victoires que, avec vos équipes, bien sûr, je sais que c'est toujours collectif, ces affaires-là, vous êtes fiers de pouvoir revendiquer?
Ben, on essaye. Après, quand on fait du droit de l'environnement, il faut surtout éviter d'être d'un tempérament très, très pessimiste, parce que sinon, on arrête tout de suite de faire cette recherche-là. Donc, c'est vraiment de toutes petites victoires. Alors, quelques petites victoires, mais qui, malheureusement, sont vraiment des minuscules petites victoires. Par exemple, dans l'expertise organisée par le CNRS, pendant très longtemps, l'environnement ne rentrait pas dans ces expertises ou dans des séminaires interdisciplinaires. Là, notre petite victoire de juriste en droit de l'environnement, c'est d'avoir à injecter la dimension juridique dans ses expertises ou dans ses séminaires interdisciplinaires sur l'environnement.
Maintenant, ça y est, vous en êtes aussi et
voilà,
on n'imaginerait plus pouvoir
pas
organiser ce type de rencontre sans
non.
la présence
oui.
de vos spécialités.
Voilà. On a réussi à faire passer, n'oubliez pas le droit. Donc ça, par rapport aux organismes de recherche, ça c'est déjà un premier pas intéressant. Par rapport à l'action publique, là, c'est très mitigé, je veux dire, c'est très mitigé. Vous avez cité tout à l'heure la question des algues vertes. C'est vrai que là, ce qu'on a réussi à faire passer, c'est attention, n'oublions pas le droit de l'Union, n'oublions pas tout le contentieux européen qui nous fait peser une épée de Damoclès au niveau financier.
De plusieurs millions d'euros.
Donc ça, c'est cette petite prise de conscience sur le rôle des approches volontaires, où là, OK, le droit, c'est pas que le droit répressif, on a des approches volontaires qui, à un moment donné, peuvent faire modifier les comportements. Un exemple, pour Rennes Métropole, lorsque Rennes Métropole avait lancé sa charte, qui était une charte volontaire, sur sa coule de source, en d'autres termes, qui était là pour...
Sur la qualité de l'eau, hein, c'est
oui,
ça, dans l'agglomération rennaise.
Voilà, et diminuer l'utilisation des pesticides chez le jardinier du quotidien. Aïe, ça a été lancé par Rennes Métropole. On avait travaillé, ils nous avaient présenté cela dans un colloque. Et puis hop, c'est devenu la règle. Voilà, donc ça, c'est des.
Alors, vous évoquez justement Rennes Métropole. Il y a un partenariat, je crois, dans lequel vous êtes directement partie prenante. Ça s'appelle le dispositif Partenariat en écologie et environnement. C'est ça, le DIP.
Le DIP, comme on l'appelle.
Vous l'appelez. Et Rennes fait partie des collectivités qui sont associées dans cette démarche-là. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, parce que j'imagine qu'il y a là du concret et surtout de la hauteur d'homme, de la hauteur d'habitant dans le rapport que l'on peut avoir avec ces questions environnementales.
Oui, en fait, c'est quoi ce DIP, comme on l'appelle, ce dispositif partenarial? C'est un dispositif qui a été lancé par un des instituts du CNRS, qui est l'Institut de l'écologie et de l'environnement, qui a souhaité identifier sur le territoire français quels étaient les sites qui pouvaient être intéressants, qui travaillaient, qui s'investissaient sur l'environnement et l'écologie, et qui associent les collectivités territoriales. Donc il y en a 13 en France, et parmi les 10 premiers qui a été choisi, ça a été Rennes. Parce que Rennes, on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir un site de chercheurs extrêmement important, plus d'une dizaine de disciplines représentées. Et avec ce DIP, on a donc l'ensemble de nos partenaires territoriaux qui sont là, donc Rennes Métropole, mais également la région de Bretagne qui est là. Alors, parmi une des actions que je peux citer, pour l'instant, on n'est pas encore impliqué complètement, nous les juristes, mais ça devrait bientôt y venir, c'est sur les prairies Saint-Martin.
Ah oui, ça c'est un sujet d'aménagement tout à fait passionnant, parce qu'il y a là à la fois la préservation d'un milieu fragile, en cœur de ville, hein, on ne peut pas faire plus, et avec là aussi des réflexions, on parlait de droit de l'urbanisme en commençant cette émission, et qui sont évidemment très, très prégnantes.
Oui, et là c'est cet exemple-là, donc c'est un projet qui est coordonné par notre collègue Hervé Quénol, qui est géographe au LTEG à Rennes 2, et donc Hervé, c'est bien évidemment, c'est complètement impliqué dans ce beau projet.
Il faudra qu'on l'invite dans notre émission prochainement.
Oui. Et là, c'est vraiment typiquement un projet qui peut être super intéressant, qui est super intéressant pour mobiliser tous différents chercheurs.
Et là, du coup, ça veut quand même dire un peu un... Je ne dis pas un changement de métier, mais l'interdisciplinarité devient absolument centrale, alors que, on le sait, dans la pratique des juristes, historiquement, ça n'a pas forcément été, pour y compris des bonnes raisons. C'est-à-dire, y a une épistémologie particulière au droit qui fait que travailler avec les sciences humaines et sociales, sociologie, histoire, sciences politiques, aménagement, géographie, etc., n'allait pas forcément de soi. Là, pour le coup... Vous êtes vraiment de plein pied dans cette conception-là du métier.
Oui, alors c'est sûr que c'est à chaque fois un pari. Je pense que c'est parce qu'on est chercheur CNRS qu'on peut s'autoriser ce pari-là.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez davantage de temps ou des conditions matérielles plus favorables pour pouvoir vous lancer dans ce type de projet ?
En d'autres termes, on ne va pas être sanctionné forcément dans notre carrière si on fait de l'interdisciplinarité.
Qui peut être mal vu par ailleurs.
Oui,
c'est ça,
parce que si on prend nos enseignants-chercheurs, en particulier en droit, pour qu'ils puissent évoluer dans leur carrière, non seulement il faut qu'ils publient seuls, et qu'ils publient en droit. Et donc à partir de là, c'est évident que à la fois des publications collectives...
Sur l'environnement
ou
autre chose.
Sur d'autres domaines, principalement d'autres domaines, parce que l'environnement, à un moment donné, on ne peut pas s'amuser à comprendre la norme sans regarder ce qui est fait ailleurs. Mais du coup, pour les enseignants-chercheurs en droit de l'université, qu'est-ce qu'ils vont aller faire en interdisciplinarité ? Enfin, ils ne voient pas forcément...
Qu'est-ce que ça me rapporte ?
Qu'est-ce que ça va leur servir s'ils veulent évoluer dans la carrière ? Alors, on a quelques collègues rebelles qui se prêtent à ce jeu-là parce que la matière s'y prête. Je pense à des collègues qui sont sur Rennes dans mon laboratoire qui ont travaillé sur la bioéthique. Ça, c'est évident. Ils vont être obligés d'aller voir ce qui se passe. Quand on travaille sur l'Europe, c'est aussi intéressant d'avoir d'autres éclairages que le droit. Et sur l'environnement, on ne peut pas se permettre de faire droit de l'environnement sans l'interdisciplinarité.
Est-ce que ça veut dire aller jusque ce que le CNRS appelle l'interdisciplinarité, c'est-à-dire aller vers les sciences qui ne sont plus humaines et sociales, c'est-à-dire les sciences de l'ingénieur, les écologues, les biologistes, etc.
Alors,
les sciences de santé.
Oui. Je dirais, enfin, moi, depuis que je suis au CNRS, parce que Rennes se prêtait à cela aussi, avec l'Observatoire des sciences de l'univers, qui était avant ce qu'on appelle le CAREN, on a été tout de suite immergés dans cette interdisciplinarité. Ce qui a été plus difficile, c'est faire comprendre d'un aux sciences non humaines, fait quand même par des humains.
On ne dira pas humaines.
Non. Faire comprendre qu'il y avait de la recherche en droit.
Ouais.
Ça, c'était la première étape. Il y a de la recherche en droit, et ça veut dire quoi faire de la recherche en droit ? Donc ça, c'était la première étape. Et après, n'être pas seulement l'avocat de service, comme je disais tout à l'heure, hein, et qu'on pouvait travailler ensemble et co-construire ensemble une recherche.
Alors justement, vous évoquiez à l'instant peut-être le cas un peu favorable de la situation de l'université ici à Rennes pour favoriser ces rapprochements ou faire ensemble qu'il y ait des équipes qui puissent travailler ensemble. Est-ce que aujourd'hui ce positionnement-là, il est repéré au niveau national ? Est-ce que, allez, on ose la formule, est-ce qu'il y a une école rennaise du droit de l'environnement ?
Je ne sais pas si on peut dire qu'on a une école rennaise sur l'environnement, parce que ça serait bien présomptueux. Par contre, qu'on ait des recherches en environnement avec une dimension juridique forte, oui. Parce que c'est pour ça qu'on a eu le DIP, parce que c'est pour ça que l'Institut de l'écologie et de l'environnement, à chaque fois qu'il lance des ouvrages collectifs maintenant, on nous demande des interventions en droit. On a eu une chaire d'excellence du CNRS qui venait de l'INE également en droit de l'environnement. On a eu un réseau de thématiques pluridisciplinaires sur la biodiversité avec un ancrage qui était vraiment juridique. Et tout ça, c'est parce qu'on a eu cette reconnaissance. À Rennes, on a les juristes.
Alors, les juristes rennais, sur quelles thématiques très précises vont-ils être mobilisés dans les années ? On va raisonner en années, parce que tout ça, ça prend du temps. Vous l'avez bien rappelé dans vos propos. Est-ce qu'il y a des thèmes de recherche qui sont particulièrement peut-être attendus et souhaités aussi par vos équipes, que vous avez envie de vous emparer de ces sujets-là ?
Alors, au niveau de la petite équipe, parce qu'on est vraiment parti tout petit.
Combien êtes-vous, d'ailleurs ? Vous ne l'avez pas précisé.
On a créé la première fois qu'on a... Enfin, c'est en 2005. Ça fait donc 10 ans qu'on a créé la petite équipe en droit de l'environnement. Donc on était deux à l'époque, hein, donc on n'était pas...
Petite équipe, effectivement.
Toute petite équipe, en mobilisant un petit peu les enseignants-chercheurs qui croisaient leurs thématiques de prédilection avec l'environnement. Et donc maintenant, on est 3 chercheurs CNRS. Et on est 5 autres enseignants-chercheurs qui croisent aussi leur thématique et 4 doctorants. Et puis on a 4 autres membres. Donc on a à peu près une dizaine de personnes.
Ça commence à faire.
Voilà.
Alors justement, vos terrains de chasse.
Nos thématiques, on a un premier axe qui travaille sur justement ce qu'on appelle la cohérence environnementale des politiques publiques et des différentes branches du droit. En d'autres termes, on voit comment l'environnement est pris ou n'est pas pris en compte et comment il est pris en compte dans telle et telle politique publique ou dans telle et telle branche du droit. Donc c'est vraiment cette transversalité environnementale que l'on travaille dans toutes les branches du droit. Et on a en particulier une collègue qui travaille sur l'agriculture et l'environnement, hein, qui est Alexandra Langlais, qui est chargée de recherche au CNRS, qui a eu aussi une médaille de bronze du CNRS hein, sur ses travaux.
Bravo.
Et qui travaille sur ses relations environnement et agriculture. Donc on a cette première thématique-là. On a une autre thématique aussi sur les rapports entre le droit, les normes techniques et la science. Donc on travaille justement sur ces interactions. Comment le droit se nourrit ou se nourrit pas des données scientifiques et techniques. On a un autre axe qui lui est consacré à la question de la gouvernance et de l'articulation des échelles d'intervention en droit. Et puis un tout dernier qui lui est sur les risques environnementaux. On a une collègue qui justement travaille sur ces questions de responsabilité et de risques environnementaux.
Alors, il y a une question qui me vient en vous écoutant et que peut-être que nos auditeurs qui vous écoutent vont se poser également. Imaginons que je sois étudiant en droit à la fac de droit ici à Rennes et que je suis complètement passionné par tout ce que vous venez de nous dire et que je me dis, ben voilà, j'ai trouvé ma voie, ce sera le droit de l'environnement. Il y a des filières particulières, il va falloir choisir des options, il y a un parcours à privilégier si l'on souhaite faire le même métier que vous demain.
Alors, ce qu'on a fait sur le site Rennais, on a fait un choix qui est complètement différent pour se distinguer de ce qui existait à Nantes. Parce qu'à Nantes, il y a...
C'est pas la première fois qu'on cherche à se distinguer de Nantes.
Oui, puis
je vous laisse poursuivre.
On est tellement près. On est tellement près. Donc, il faut trouver nos complémentarités. Et donc, à Nantes, ils ont un master en droit de l'environnement, un M1 et M2. Donc, du coup, on s'était dit, non, on va pas prendre cette option-là. Donc, on a pris l'option de diffuser des modules de droit de l'environnement dans... On a à peu près, j'avais identifié, on a à peu près une dizaine de masters où on a introduit des modules en droit de l'environnement. Et puis on a fait un parcours très particulier dès la licence et puis après en master, qui est ce qu'on appelle un master environnement en droit, qui est un master à double compétence en écologie et en droit.
Ça c'est intéressant, ça existe depuis combien de temps
On a fait TC 5 ans, on est dans sa 7e année là.
Donc l'insertion sur le marché du travail commence à se donner ses fruits.
L'insertion est relativement bonne, hein, puisqu'on a même été identifié comme une des pépites. Je ne sais plus dans quel journal, au niveau national. Enfin bref, ça a identifié un certain nombre de pépites de master. Et puis donc ce master a été est dirigé par une de mes collègues écologues qui est Sandrine Mouni, et puis un collègue Afif Daher de l'UFR Droit. Et donc c'était un pari, pari très audacieux, parce qu'une double compétence, ce n'est pas forcément très évident. Et ça peut effrayer un peu nos étudiants. Mais en termes de débouchés, que ce soit les collectivités, que ce soit les entreprises, ils sont très friands de ces personnes, soit en écologie qui ont des réflexes en droit, ou des juristes qui ont des réflexes en écologie.
Le couteau suisse du droit de l'environnement.
Oui.
Christian Lebart.
Oui, au fond, en vous écoutant, on se dit que probablement toutes les branches du droit sont devenues des formes de droit de l'environnement. Ce qui serait pas étonnant, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas des différences? Il est évident que le droit public, le droit européen, etc., sont très, très directement impactés. Vous disiez que vous aviez commencé votre parcours de chercheur autour des entreprises, des droits de l'environnement des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que ça bouge dans la façon dont les entreprises sont incités, voire se voient imposer de respecter l'environnement.
Alors deux choses, à la fois sur les entreprises, c'est vrai que par rapport aux travaux de ma thèse qui maintenant date beaucoup, et jusqu'à présent, c'est vrai que ce que j'avais identifié comme les tendances à venir sur la façon que le droit allait appréhender l'entreprise et permettre à l'entreprise d'évoluer dans une meilleure prise en compte de l'environnement, c'est vrai que ces tendances se sont confirmées, voire même ce que moi j'imaginais encore comme de l'incitatif ou de l'accompagnement avant d'imaginer de la contrainte. Là maintenant, c'est vrai qu'on a surtout tendu vers une augmentation de la contrainte sur l'entreprise, en particulier sur la question de la formation. On revient tout à l'heure à ce qu'on évoquait sur la transparence, et c'est vrai que ces obligations en termes d'information, de reporting, de suivi, etc., ça c'est vraiment une tendance qu'on a vue se dessiner depuis la fin de mes travaux en thèse.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que, alors je vais formuler ça de façon très macro, mais est-ce qu'il y a vraiment une mutation du capitalisme, disons ça brutalement, autour de gisements de nouveaux marchés est-ce qu'on voit trace de ça dans le droit? C'est-à-dire, est-ce que...
Il y a un double mouvement. Il y a un premier mouvement où là, il y a une approche très néo-capitaliste, avec l'émergence des nouveaux marchés de l'environnement, en particulier autour de la biodiversité, liée à une médiatisation qui a été très très discutée et qui a fait l'objet justement du RTP qu'on avait mis en place nous en 2012 sur les services écosystémiques. Ouais. Et donc d'imaginer...
Réseau thématique pluridisciplinaire,
oui,
le RTP.
Du CNRS, oui. Voilà. Et justement, avec ce concept-là qui apparaît à partir de 2004, le capitalisme entre guillemets vert se dit mais on va... N'oublions pas, le marché, c'est la solution, sans du tout reposer les véritables fondements. Donc, on sent bien que dans le droit de l'environnement, il y a un certain nombre de collègues qui se sont dit bah, pourquoi pas utiliser le marché, après tout, mais sans forcément penser à le reformuler, à le modifier complètement.
La manière dont vous le dites montre que ce n'est pas la tendance que vous avez choisie.
Non. Et il y a aussi l'autre tendance qui se dit bah, ok, pourquoi pas utiliser le marché, mais complètement remodifier, transformer le marché. Donc on a le droit de l'environnement actuellement, mais pas que dans le droit hein, d'environnement, il y a bien cette tension très forte sur la question on utilise ou on n'utilise pas le marché.
Qui va gagner le match, d'après vous?
Le problème, c'est que c'est l'urgence qui va gagner le match, et je crains que ça ne soit pas forcément... à la faveur de ce qu'on souhaiterait, nous.
Le contenu, maintenant, on le connaît dans ses grandes lignes, et il ne permet absolument pas, et l'ONU le reconnaît lui-même, de maintenir en dessous des 2 degrés. Et au contraire, il nous amène au-dessus des plus 3 degrés, ce qui est absolument inacceptable. Et c'est pour ça que nous appelons la population de Paris, de France et du monde entier à se manifester, à se rassembler de manière pacifique, à visage découvert, mais de manière déterminée, au Champ de Mars, demain, pour adresser un message à l'opinion publique mondiale. Et ce message, c'est « Déclarons l'état d'urgence climatique ».
Alors, pour justement quand même prolonger votre réflexion et surtout essayer de la partager auprès du plus grand nombre, vous l'avez évoqué, il y a des publications, il y a sans doute des sites internet, il y a des ouvrages. Vous en avez sorti un récemment hein, qui s'intitule « Quelle solution, au pluriel heureusement, face au changement climatique ?» Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce bouquin?
Ça, c'est un ouvrage qui a donc été coordonné par mes collègues de l'INE, hein, de l'Institut de l'écologie et de l'environnement du CNRS, en partenariat avec le comité 21, donc avec Bettina Laville, hein, pour la préparation de la COP21. L'objectif était pour le CNRS de montrer, voilà, les chercheurs, ils travaillent pas seulement dans leur tour d'ivoire, ils peuvent essayer d'imaginer des solutions pour l'avenir. Donc c'est un ouvrage qui est sorti juste avant la COP21.
Mmh. Il y a un point d'interrogation dans le titre, hein, quelle solution? Mais il y a des solutions à l'intérieur?
Alors il y a toute une série de solutions qui sont imaginées, quand même, en particulier des solutions fondées sur l'utilisation du bon fonctionnement des écosystèmes. Alors c'est tout ce qu'on appelle l'ingénierie écologique, les infrastructures vertes, c'est-à-dire regardons un petit peu comment fonctionnent nos écosystèmes. Ils nous apportent un certain nombre de services parce qu'ils ont tel et tel fonctionnement. Ça peut nous être utile pour s'adapter au changement climatique, ça peut nous être utile pour répondre aux questions environnementales.
À qui s'adresse cet ouvrage? C'est quand même un livre édité par le CNRS, donc c'est sérieux, ça nécessite, comme on dit, des prérequis importants
son miel. Il a vraiment été... Alors, ce sont des ouvrages collectifs. Hein, l'INE est porteur d'un certain nombre d'ouvrages. Hein, il y avait eu, donc, bon, on a eu la COP21, le climat. On a vu auparavant sur le changement durable, enfin, sur le développement durable, sur les océans. Ce sont des ouvrages qui sont destinés tout public.
Tout public.
Oui, oui, oui. Donc on demande aux chercheurs, lorsqu'ils rédigent, attention, vous n'êtes pas là pour envoyer un papier dans je ne sais quelle grande revue.
Un comité de lecture.
Vous êtes là pour, vous êtes là pour vraiment faire de la diffusion d'informations. C'est le rôle du chercheur dans la cité, encore une fois.
Il vous va bien, ce rôle-là.
Il n'est pas en ville, mais il est dans la cité.
Ben si, on est bien dans le sujet de chercheur en ville. Peut-être une dernière question, Christian Lebart, avant que nous nous séparions.
Peut-être une interrogation sur l'échelon local, au fond. Hein, on a quand même l'impression que les grands enjeux d'environnement laissent les collectivités locales type commune, même ville, puisqu'on parlait de chercheur en ville, là, complètement en bout de chaîne. Est-ce qu'on peut vraiment localement créer des dispositifs d'action publique qui jouent un rôle?
Et qui ne soient pas seulement dans la communication institutionnelle, parce que c'est quand même comme ça que les choses se traduisent souvent à l'échelon communal ou intercommunal.
Je répondrai sur deux choses. La première chose, c'est prenons l'exemple de la COP21, ce qui s'est passé. où on s'est rendu compte que le niveau multinational, enfin, international, et donc ce multilatéralisme, il est important, mais c'est qu'une des pièces du puzzle. Et on a vu une forte mobilisation des collectivités territoriales, avec l'engagement des maires, de dire voilà, à l'échéance de 2050, on sera zéro.
C'est le
émission.
Colibri, hein, chacun prend sa part pour éteindre le feu. Hein.
Voilà, mais on voit ces collectivités territoriales qui se disent mais on peut jouer un rôle. Ça c'est la première chose, et donc on voit bien que pour le changement climatique, le local va avoir un rôle extrêmement important. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'ils arrivent un petit peu en bout de chaîne par rapport à la production normative, la production du droit contraignant, mais il y a tout le volant de l'approche incitative et volontaire. Ce qu'on citait avec Rennes Métropole tout à l'heure. Le problème qu'il y a là maintenant, c'est un problème de financement public. Et quand on travaille sur la question environnementale, le financement public ne peut plus être la seule ressource pour pouvoir agir en matière d'environnement.
Quelles sont les sources alternatives ou complémentaires, privées ?
Les sources privées, le financement.
Et elles jouent le jeu, elles sont présentes à la sollicitation qu'on leur adresse ?
C'est encore un grand point d'interrogation, c'est la mobilisation des ressources privées.
Une dernière question, et ça sera vraiment la dernière. On s'adresse avec vous, évidemment, à un public plutôt d'étudiants ou de l'enseignement supérieur, mais lorsqu'on s'intéresse aux plus jeunes, c'est-à-dire dans les collèges, dans les lycées, est-ce que cette dimension-là, on peut déjà la faire passer auprès des enfants et de quelle manière ? Est-ce que ça fait partie des choses auxquelles vous réfléchissez ?
L'éducation à l'environnement, c'est le socle. C'est-à-dire qu'on peut pas s'amuser pendant plus de 45 ans à construire le droit de l'environnement si on ne s'est jamais intéressé véritablement à l'éducation à l'environnement. Alors c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, hein, dans les programmes, etc. Est-ce que c'est suffisant ? Je dirais non, toujours pas, parce que si c'était suffisant, la génération qui aurait été éduquée à l'environnement dans les années 70 serait donc maintenant au pouvoir et aurait modifié un certain nombre de choses. Donc l'éducation à l'environnement, oui, ça c'est un pari d'avenir extrêmement important. Ouais.
Merci beaucoup Nathalie et Hervé Fournereau. Je rappelle que vous êtes juriste, chercheur en droit, directrice de recherche CNRS à l'université Rennes. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Merci Xavier, et pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le livre dont il était question dans cette émission, qu'elle a contribué à notre invitée Nathalie Hervé Fournereau, « Quelles solutions face au changement climatique ?» paru au CNRS édition en 2015. D'autres ouvrages sont également à consulter, par exemple les cahiers prospectives, droit, économie et écologie de la biodiversité disponibles en ligne, ou encore le développement durable à découvert paru en 2013. Nous vous proposons aussi d'écouter sur la radio Université Bretagne-Loire les podcasts de deux conférences prononcées par Jean Jouzel en amont de la COP21, l'Université de Bretagne-Occidentale et à l'INSA de Rennes, ou encore les podcasts des journées normaliennes du développement durable. Et puis, vous en avez désormais l'habitude en écho à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 13h sur Canal B pour écouter Ricochet, la dernière émission de Ricochet de l'année, l'émission des étudiants en master journalisme et enquête de Sciences Po Rennes. Je vous souhaite de passer une très belle journée à l'écoute de Canal B. À bientôt.
Chercheurs en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne et la Radio Université Bretagne-Loire.